L'artichaut.
C'est l'artichaut.
Le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. C'est deux rendez-vous par mois.
Pourquoi c'est connu ?
Et salut vous, auditeurs, auditrices de RDOA 107.5, 101.7, c'est l'artichaut. On est vendredi soir, il est 20h et c'est un nouvel épisode que vous allez découvrir avec nous. Carotte in the place.
Yes, yes, Carotte is in the place. Pour parler aujourd'hui, pas tellement de peinture, mais surtout d'une personne, d'une personnalité. Art de vivre, art d'être, modernité absolue, une femme exemplaire du 19e siècle. J'ai nommé Rosa Bonheur. Donc tu connais Rosa Bonheur, Malo ?
Non, je ne connais pas. Mais en tout cas, son nom est très inspirant, en tout cas.
Alors, son nom est très inspirant. Alors, en fait, elle s'appelle Marie-Rosalie Juana Maria Maribel, dite Rosa Bonheur. Alors, elle a une histoire rocambolesque et incroyable. Et c'est pour ça qu'on a choisi de parler d'elle. D'abord parce qu'elle fait partie de ton livre. Donc, elle est tout à fait illustre dans le monde de la peinture pour son œuvre naturaliste de tableaux concernant les animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle le naturalisme réaliste. Donc, du coup, bon, ben voilà, pour ceux qui aiment les animaux, tous ceux qui aiment les animaux et la peinture la connaîtront. Du coup, on va parler un peu de tout. On va parler des femmes, on va parler de religion. On va parler de destin de vie et on va parler de success story parce que ce qui lui est arrivé est proprement incroyable. Elle a vraiment un destin fabuleux, quoi. Donc,
un épisode qui s'annonce très riche.
Bah,
du
oui,
coup.
J'espère, bien sûr. Surtout pour nous, les femmes, les illustres femmes artistes non reconnues. Parce que Rosa, elle appartient maintenant à l'élite et elle était déjà de son temps mise en musée quasi, quoi.
Ok, donc ça fait partie d'une des rares artistes qui a presque connu un succès durant sa
vie. Ah ben ouais, elle l'a carrément connu. Donc on va, j'ai pas envie
Allons-y.
de me lancer
Allons-y.
Dans la diarrhée verbale parce que sinon je vais spoiler des trucs. Donc, on va parler déjà de ses parents. Donc, sa mère, Sophie, est une petite orpheline de la ville de Hambourg. Et elle va être adoptée par un financier, un industriel bordelais. Et donc, elle va d'un coup sortir d'une forme de précarité sous l'Empire, hein, puisque c'est l'Empire austro-hongrois qui tient Hambourg. Donc, faut bien se rendre compte un peu froufrou, dictature et tout ça. Et donc, cette pauvre petite jeune femme passe du coup à la grande bourgeoisie. Et donc, son père va lui offrir des cours de dessin. Et c'est Raymond Bonheur qui va avoir le bonheur de lui donner les cours. Ils vont tomber amoureux. Et ils vont se marier peu de temps après. Donc, ils vont avoir des enfants, pas mal. Ils vont tous être artistes. Donc, ça, c'est génial. Et du coup, on va les retrouver dans une autre forme de littérature sur l'hérédité du génie, le génie familial. Il va y avoir un bouquin d'un élève de Darwin qui s'appelle « Le génie héréditaire ». Et en 1869, il va prendre la famille Bonheur comme exemple du génie héréditaire. Regardez, la mère s'est dessinée, le père s'est dessiné, les enfants savent dessiner, tout le monde s'est dessiné.
La belle transmission de savoir, quoi.
Super transmission. Alors, Rosa, c'est un garçon manqué, super indiscipliné, probablement dyslexique, enfin avec des gros problèmes d'apprentissage. Donc, refusant l'école, elle porte les cheveux courts, elle n'a pas envie de mettre de robe, elle est très dissipée, très provocatrice, c'est-à-dire elle ne veut pas qu'on lui donne des ordres.
Je suis sûre que je l'aurais adorée.
Mais ouais, et du coup, alors sa mère, pour l'aider à l'apprentissage des lettres, elle associe chacune des lettres de l'alphabet à un animal. Donc c'est
d'où
ça.
Sa passion.
Ben voilà, c'est ça qui va déclencher le truc. Et en même temps, dans sa famille, son père est un adepte de Saint-Siméon, donc c'est le saint-siméonisme. Alors je suis allée voir parce que je savais pas trop ce que c'était cette doctrine.
Dis-nous, donc, parce que je pense que nous non plus, on ne sait pas.
C'est une doctrine typique du passage entre 19e et 20e siècle, donc de l'industrialisation. Donc c'est une doctrine religieuse morale qui croit dans une récompense universelle si tu œuvres bien et qui croit aveuglément dans le futur du progrès humain, de l'industrialisation, du confort, sortir de la féodalité, sortir de la guerre. Et l'idée, c'est de mettre aux commandes du gouvernement des grands intellectuels, des grands artistes, des grands industriels, des grands scientifiques, pour un monde qui serait plus une fraternité globale et universelle, de gens sachants, des érudits qui travailleraient ensemble.
C'est donc, pas bête, ça.
Ouais, donc c'est une belle vision. Mais c'est vrai qu'à ce moment de transition, c'est aussi une vision qui facilite le passage à une lourde industrialisation. C'est-à-dire, ils ne s'imaginent pas le capitalisme qui va suivre derrière. Mais je pense que c'est effectivement une voie à aller découvrir, donc Saint-Siméon.
Et alors, pourquoi Rosa, elle est considérée comme quelqu'un de ce mouvement-là ?
Eh bien, parce que ce mouvement-là a aussi une pensée pour les animaux. Et il y a aussi une autre philosophie qui vient avec, c'est la part d'âme qu'il y a dans les animaux. Donc, les animaux ont une âme. Et ça aussi, ça va beaucoup
inspirer
Rosa Bonheur, qui va en faire son art de vivre, en fait. Elle va aussi rapidement se mettre à fumer. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça en parlant du Saint-Siméonisme. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y a une ambiance quand même très moderne, un peu libertaire et très, très ouverte, en fait. L'apprentissage est ouvert pour tous ses enfants. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être une famille vraiment sympa.
Carrément.
Où il y a de la musique, où sans arrêt, voilà, on s'occupe plus de l'âme et de l'esprit que des gros muscles. Alors, en 1830, se passe la naissance de sa petite sœur et la mort de son grand-père. Et à ce moment-là, donc comme la fille Sophie qu'il a adoptée vient d'avoir une nouvelle petite fille, au moment de mourir, le grand-père dit que en fait Sophie, il l'a pas adoptée, enfin il l'a adoptée, mais qu'en fait c'était sa vraie fille. Donc du coup Rosa, elle va se faire tout un fantasme sur les mystères de sa généalogie, les trucs cachés, secrets d'État, que sa mère, enfin voilà, son père il aurait enfanté sa mère et sa mère ils auraient été séparés à cause des trucs de l'Empire et que finalement son père c'était par cette voie-là qu'il aurait pu faire revenir son enfant en France et que en fait elle a vraiment des origines nobles. Donc elle va triper un peu là-dessus pour se faire un peu son image à elle de sa lignée héréditaire et de tous les mystères qui vont avec. Mais par contre, quand le grand-père y meurt, c'était lui qui avait les sous, le financier bordelais là, et du coup, c'est lui qui entretenait un peu la famille Bonheur, et donc la famille se retrouve un peu dans la misère. D'autant que le père Raymond, pour répondre à ses attentes de Saint-Siméon, là, il va carrément s'enfermer dans un monastère laïque. Donc, tu vois, il y a aussi un monastère laïque. Donc, c'est un endroit monacal où tu es tout seul pour réfléchir. Mais il n'y a pas vraiment une religion derrière. C'est plus une doctrine, une philosophie, en fait. Hein.
Oui, mais il y a plusieurs, d'ailleurs, qu'on peut découvrir. Enfin, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont allées s'exiler dans des monastères pour se retrouver avec soi-même. C'est encore courant, quoi.
Oui,
c'est des pratiques.
Aujourd'hui, oui, parce que maintenant, la religion catholique, elle a pris un coup dans l'aile. Mais je veux dire, à cette époque-là, bon, c'est quand même des trucs un peu underground, quoi, tu vois. C'est des niches de doctrine de leur moment, quoi. Donc, du coup, la mère et Rosa, elles font de la couture pour faire survivre la famille. Donc, elles passent de « Ah oui, je suis la fille peut-être d'une impératrice ou d'une princesse. Ah bon, ben, je suis dans la misère et je fais de la couture. » Et en 1833, quand sa mère meurt, eh ben, hop, elle est enterrée carrément à la fosse commune du Père Lachaise. Donc, c'est dire qu'ils avaient vraiment pas un rond, quoi. Et il semblerait que la mère soit morte, donc dans la version officielle, d'épuisement. Pauvre dame qui avait l'habitude de ne pas travailler et qui d'un coup se retrouve à faire de la couture et des ménages. Mais en fait, elle avait chopé le choléra parce qu'il y a eu à cette année-là une grosse épidémie de choléra et il semblerait qu'aussi elle ait été mise à la fosse commune pour des facilités d'enterrement comme on a vu pendant le Covid. Donc Rosa, à ce moment-là, elle a 11 ans et elle va développer un culte pour sa mère et sa mère qui chantait beaucoup, donc aussi une pratique de chant et de chanter et revivre les bons moments avec sa mère. En 1836, elle a 14 ans, c'est une gamine. Elle rencontre une autre gamine qui est de 2 ans sa cadette, donc la gamine, elle a donc 12 ans, qui s'appelle Nathalie Mika et qui va devenir sa meilleure copine, puis sa compagne dans la vraie vie pendant plus de 50 ans, puisque c'est la mort de Nathalie Mika qui va mettre fin à leur relation amoureuse. Donc ça aussi, c'est officiel. Donc dans les bios et tout, on parle pas du tout de l'homosexualité de
pourtant dès que t'as fait la présentation, j'étais sûre que c'était ça, tu
bah
vois.
Ouais,
dès que tu l'as présenté, ça se sentait.
Mais du coup, ce que j'aime bien aussi à cette époque, c'est que c'est pas du tout vu comme une anomalie ou une hérésie, mais c'est vu comme un truc tout à fait finalement normal. En fait, personne ne va sortir ça, tu sais, comme d'une corbeille dans la presse en disant « Ah, Rosa Bonheur !» et nanana, nanana.
À cette époque-là, c'était enfin, il y avait pas de jugement autour
ben,
de ça.
Par rapport aux hommes et aux femmes qui vivaient ensemble, comme Gertrude Stein et Alice Soclas, il y a beaucoup de couples, où on verra après Cocteau, Jean Barret et tout ça, enfin beaucoup de couples qui vivent leur homosexualité apparemment en toute tranquillité, parce qu'on s'intéresse pas au bas de la ceinture. Ce qui intéresse les gens à cette époque-là, c'est le cerveau, l'intelligence, et que des gens qui ont les mêmes façons de vivre, les mêmes passions vivent ensemble, qu'ils soient du même sexe, ça dérange pas, ça semble même tout à fait cohérent et simple. Donc non, il va pas y avoir encore ce regard-là. C'est finalement les années de guerre et tout ça, avec Hitler et tout ça, qui vont un peu remettre ces différences de sexualité au goût du jour. Mais à cette époque-là, non, on s'en fout complètement.
Vous écoutez Erdiwa et c'est extra.
Alors, deux mots sur la Nathalie Mika en question, là, sa copine pendant 53 ans. Parce qu'elle, elle est peintre, mais elle a aussi un brevet industriel parce qu'elle a inventé un système de frein pour les trains. Donc, tu vois, les bonnes femmes, quoi. Le soir, elle fait des petits croquis avec des cottes et tout pour les trucs industriels. Donc, bon, ça, c'est excellent. Et donc, son père, à ce moment-là, va se remarier avec une autre dame et elle va avoir un demi-frère, Germain, qui va être peintre aussi. Comme elle ne va pas trop bien s'entendre avec sa belle-mère, à la mort de son père, elle quitte le domicile et elle va s'installer dans la famille Mika, chez sa copine. Elle va commencer à avoir vraiment son indépendance. On a retrouvé un papier de 1857 qui lui donne, on en avait parlé la dernière fois, cette fameuse autorisation, enfin c'est permission au travestissement. Donc en fait, elle demande à la préfecture de police une autorisation pour mettre un pantalon, parce qu'on est toujours donc sous les fameuses lois napoléoniennes anciennes, et donc les femmes doivent être en robe, et si elles sont en pantalon, elles peuvent aller finir en prison. Donc du coup, elle est là.
C'est terrible.
Ouais, alors,
wow.
On a retrouvé donc chez elle une demande de travestissement pour Rosa, mais aussi une demande de travestissement pour Nathalie, et on trouvera par la suite une demande de travestissement pour sa nouvelle copine Anne, à la fin de sa
vie. Parce que je crois que tu avais dit que si ces femmes avaient demandé ça, c'est aussi parce qu'elles n'avaient pas le droit du coup d'exposer ou d'être dans des musées si elles n'étaient pas habillées, ou c'est parce que il n'y avait que les hommes qui pouvaient faire ça,
Ça c'est parce que Rosa, elle, elle a la passion des animaux, elle est végétarienne et tout, donc ça on a bien compris, et donc pour les dessiner et tout ça, elle est obligée d'aller dans des ventes de bétail ou dans des abattoirs, okay. Où là clairement les femmes elles ne sont pas admises, donc c'est le pantalon, c'est, tu vois, l'habit qui fait le moine, donc c'est le pantalon qui fait l'homme. Donc tu mets un pantalon, hop, ça y est, t'es déguisé en homme et tu peux te faufiler dans les endroits qui sont normalement réservés aux hommes. C'est comme ça qu'elle est la seule femme à pouvoir entrer dans les abattoirs, les ventes de bétail et tous les endroits de l'agriculture et machin où il n'y a que des garçons, et pouvoir faire des croquis et pouvoir ensuite aller travailler dans son atelier. Elle fait sa première expo à 19 ans, donc au salon de 1841. Et elle reçoit, donc là elle a rien, elle reçoit une troisième médaille en 1845, elle reçoit la médaille d'or en 1848 pour une œuvre majeure qui s'appelle « Bœuf et taureau de race du Cantal ». Du coup, comme elle est médaille d'or, l'État va lui faire une commande pour réaliser son premier tableau agraire de commande pour une valeur de 3000 francs de l'époque, ce qui est un très beau prix. Donc, elle va réaliser le labourage hivernais, qui est une de ses toiles les plus célèbres. Et à l'exposition de 1849, là, elle va remporter un énorme succès. Donc, c'est là que tout explose. Ça y est, elle est une star. Elle comprend qu'elle est la seule à faire vraiment ce qu'elle fait aussi bien. Et que tout ça a une valeur marchande. Et que voilà, maintenant, hop, il faut que les mauvais jours soient terminés pour elle et qu'elle accède enfin à la renommée et à ce qui va avec, quoi. Donc, cette toile, le labourage hivernais, il va aller d'abord au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et puis, il va, vu le succès de Rosa Bonheur à cette époque, il va être déplacé vers le musée du Luxembourg à Paris. Et en 1986, donc moins loin de nous, il va être déplacé carrément au musée d'Orsay. Donc, il faut savoir qu'on n'en a pas beaucoup. Hein, donc, celle-là, elle est bien pour la France. Mais tu vas voir que, en fait, les autres, elles vont vite partir à l'étranger. Donc en 1849, c'est à peu près là où son père meurt, donc elle va remplacer son père à l'école impériale gratuite de dessin pour les demoiselles, où son père enseignait le dessin. Donc comme son nom le dit, c'est bien une école impériale gratuite pour les demoiselles. Donc on voit bien la difficulté pour les filles à trouver des cours de dessin, la difficulté pour les filles à pouvoir avoir des dessins de nus aussi, hein, parce que ça c'est interdit, on ne peut pas leur mettre des nus à dessiner, et tous les gens ils ont des toges et ils sont habillés. Et elle va tenir ce poste, donc comme son père, jusqu'en 1860. Et elle dit à ses élèves, suivez mes conseils, mes petites chéries, et je ferai de vous les Léonard de Vinci en jupon. Donc voilà, elle est sympa, elle est marrante, elle fume, elle continue à fumer des cigares, elle monte à cheval. En 1850, elle fait pas un voyage dans le Diwa, malheureusement, dans les hauts pâturages, mais elle va choisir les hauts pâturages des Pyrénées. Elle va faire plein d'études. Elle va faire aussi les hauts pâturages en Auvergne et dans le Cantal. Bon, bref, elle suit les vaches, elle suit les chevaux et elle essaye d'être au plus proche de la réalisation de ces ambiances et ben, de la beauté de ces animaux, quoi. Elle va sortir un énorme tableau qui s'appelle « Le marché aux chevaux ». Bon, ben, c'est normal, hein, des chevaux, on ne va pas les mettre sur un timbre-poste. Donc, quand même, l'œuvre, elle fait 2,44 m sur 5 m.
Waouh!
Ouais, donc vas-y, quoi, c'est énorme. Donc, c'est pas grandeur nature.
Elles ont un escabeau pour peindre, ces
ouais,
demoiselles.
Ouais, je pense que oui. Et donc, cette énorme œuvre est présentée au salon de 1853. Donc, c'est un truc de foufou. Hein. Il n'y a pas de place sur le mur. Il y a des toiles de toutes partout. Les tailles, partout. Donc, je sais pas, ils ont exposé jusqu'à, je sais pas, plus de 3-4 000 toiles dans ce salon. Donc, pour voir celui qui te pète à la gueule, tu vois, il faut avoir l'œil frais, quoi.
Ou bon. Alors, du coup, des œuvres imposantes.
Bah alors, voilà, alors quand t'as un truc qui est grand comme ça, ça, c'est sûr. Donc, c'est là qu'elle va être au fait de sa notoriété. Et là, les critiques vont, enfin les critiques positives.
Pour
vont,
une fois.
Pour une fois. Mais alors attends les critiques parce que les critiques c'est une peinture d'homme nerveuse, solide et pleine de franchise. Donc ça c'est Henri de la Madeleine qui écrit ça dans l'Éclair.
Mais fuck.
Et même Théophile Gautier, j'ai dans mes petites notes là c'est un petit peu plus tard. Bon enfin toujours est-il que elle arrive à vendre à Ernest Gambard. Ce tableau pour 40 000 francs de l'époque. Donc là, bravo. Alors bravo, Rosa. Et ce tableau, donc Ernest, il va l'emmener en Angleterre être vu, il va l'emmener en Écosse être vu, et il y a un riche collectionneur américain qui va mettre la main dessus. Et hop, il part au Metropolitan Museum à New York. Donc à partir de là, eh ben, toute sa production est vendue avant même de sortir de son atelier. Donc ça y est, c'est fini. On ne la voit plus au salon. Ben voilà, c'est trop tard.
Wow.
Théophile Gautier dira, alors avec elle, pas besoin de galanterie. Elle fait l'art sérieux et on peut la traiter comme un homme. La peinture n'est pas pour elle une variété de broderie au petit point.
Ça m'énerve.
Donc voilà, donc une
genre femme... t'es douée comme un homme. Voilà, quoi. Tu ça. Peux pas être une femme douée. Non.
C'est-à-dire qu'en fait, voilà, si t'es douée, c'est que vraiment t'es. Oui, voilà, c'est ça.
T'es obligée d'être comparée à un homme, quoi. Voilà, c'est pas possible de une femme douée, non.
Non, on peut pas. Bah surtout qu'en plus là, bon, elle est super reconnue, puis comme en plus elle est super masculine, tu vois quand même, elle est pas du tout féminisée comme, ouais. Comme une Elisabeth Vigier Lebrun et tout, qui était une vraie petite femme ou une Marie Laurencin. Quoi. Donc en 1967, elle va quand même mettre au salon 10 toiles, mais elle va recevoir là la médaille deuxième. Et donc à partir de ce moment-là, elle va vouloir aller faire des expositions ailleurs, dont aux États-Unis.
Vous écoutez Erdiwa et c'est extra.
Alors, comme en 93, les États-Unis, enfin, on a du mal à payer le transport de ces œuvres, c'est justement ces acheteurs américains qui vont sortir les toiles de la collection pour lui permettre de faire une exposition aux États-Unis. En 1860, elle va acheter un petit coteau viticole en Seine-et-Marne et elle s'y installe dans un village qui s'appelle Thomery. Elle va s'y construire un atelier énorme et des enclos et des parcs pour ses animaux. Alors, ces animaux qui sont donc, outre chat, chien et tout ce qu'on connaît déjà, donc elle va avoir quand même un lion et sa lionne qui vont lui procurer des lionceaux. Cerfs, daims, moutons sauvages, gazelles, chevaux de toutes sortes, donc un zoo en fait. Hein. Elle va œuvrer aussi, parce qu'à cette époque on veut la couper ou l'urbaniser, elle va se battre pour l'association qui gère la forêt de Fontainebleau, donc c'est à elle qu'on doit aussi de pouvoir continuer à faire des belles balades à Fontainebleau, parce que sinon ce sera un parking. Pour être félicitée de tout ça, elle reçoit en 1864 la visite complètement impromptue de l'impératrice Eugénie, qui vient lui rendre visite à son atelier et qui suit cette visite d'un délicieux repas au château de Fontainebleau en présence de Napoléon III. Donc là, du coup, tu vois, elle est carrément dans les hautes sphères. Et puis en 65, donc l'année d'après, Eugénie va revenir à son château avec la Légion d'honneur et va se féliciter de faire enfin la première femme chevalier de la Légion d'honneur.
RDWA Radio, www.rdwa.fr.
Elle va mourir le 25 mai 1899, juste avant l'année 1900. Où il devait y avoir, où il y a eu la fameuse exposition universelle à Paris, et où bizarrement l'État français voulait lui remettre une médaille globale pour l'ensemble de sa carrière, chevalier des arts et lettres et tout ça. Et ils avaient d'ailleurs fait une spéciale médaille d'honneur pour la carrière du plus grand peintre animalier du 19e siècle. Donc voilà, donc Rosa Bonheur est la plus grande peintre animalière du 19e siècle. Et donc elle le restera, parce que cette peinture-là, des animaux et tout ça, ça va être dans les calendriers. Enfin, je veux dire, au niveau de l'histoire de la peinture moderne, ça ne va pas rester. Les peintres comme moi, ils font rarement des animaux, des vaches et des cochons. 2100 œuvres qui vont être vendues entre le 30 mai et le 8 juin 1900. Donc, tu vois, comme une
vente... Il y a 2000 œuvres qui sont parties en moins d'une semaine, genre.
2100 œuvres sont vendues et elles vont toutes partir à la galerie Georges Petit à Paris. Et ça va provoquer un effondrement de la cote de Rosa Bonheur.
Ah ouais.
C'est-à-dire, au lieu que sa mort multiplie sa cote et en face comme un Van Gogh ou un Manet ou un Monet, un truc pour l'éternité, en fait, comme tout va être vendu le lendemain de sa mort à cause des problèmes de famille, la cote va s'effondrer. Voilà, donc c'était la folle histoire de Rosa Bonheur, la femme travestie qui peignait les vaches mieux que personne et qui portait des pantalons en fumant les cigares. Voilà, honneur à toi, ô belle Rosa Bonheur.
Merci de nous avoir parlé d'une figure féminine emblématique dans l'histoire de l'art.
Ça fait plaisir. Il y en a plein, en fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est des petites perles. Rosa Bonheur, déjà, rien que son nom, on ne l'oubliera pas. Et puis, pour ceux qui aiment les animaux, qui sont végétariens, c'est une ode à la nature sauvage. C'est une ode à l'âme de l'animal. Il y a une belle philosophie là-dedans. Et des beaux paysages aussi. Donc voilà, merci Rosa, merci Malo. Donc je vous aime, je vous embrasse, plein de bonheur et des belles roses à tous. Et on se retrouve vendredi prochain.
Tout à fait. Pour rappel, on a quand même 10 épisodes d'Artichaut qui sont disponibles sur www.rdivois.fr. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette émission et que vous avez envie de découvrir davantage sur la peinture, les artistes et tout l'art du 19e siècle, vous allez sur rdivois.fr, vous tapez Artichaut et vous allez découvrir tous les trésors que Carotte nous fait partager à l'antenne chaque semaine.
Je vous aime, bonne semaine, bisous, à bientôt.